André Glades, pseudonyme de Nancy Marie Vuil, Résistance, chapitre 2. Après 8 jours passés à Genève pour improviser un trousseau à Christine, Lionel lui proposa, la chaleur étant encore vive, de finir l'été à la montagne. Elle acquiesça, et leur choix, dans un pays qu'ils connaissaient à peine, se fixa au hasard d'un guide des étrangers sur Villars, dans les Alpes vaudoises. Ils convinrent aussi de descendre à l'hôtel. La première intention de M. de Reuil avait été de louer un chalet meublé où il se serait trouvé plus tranquille. Mais Christine, qui depuis 8 jours vivait dans la peur d'un réveil conscient, préférait à la solitude où l'on est obligé de penser la société anonyme sans cesse renouvelée des tables d'hôtes. Ils arrivèrent à Villars de nuit par une brume profonde qui s'épaissit au fur et à mesure de la montée et se résolut en une pluie fine, continue, assez froide, à une demi-heure environ de l'hôtel. Serrés l'un contre l'autre au fond de leur voiture et un peu grelottants, Christine et Lionel voyaient les cimes, glorieuses au départ, se confondre graduellement avec les nuages. Bientôt le paysage s'évanouit à leurs yeux, leurs deux petits chevaux robustes, conduits par un cocher invisible, les traînaient sur une route qu'ils ne distinguaient plus, entre deux murs fantastiques de brouillard. Fatigués, ils se taisaient l'un et l'autre. Puis, à une question que posa la jeune femme sur l'heure de l'arrivée, Lionel ne répondit que par un vocable indistinct et elle s'aperçut qu'il s'endormait. Déçue et soulagée à la fois, elle s'abandonna alors à ses impressions. La semaine qui venait de s'écouler rejetait dans un tel éloignement toute son existence antérieure qu'elle éprouvait à tout instant le besoin de s'assurer de son identité. Était-ce bien elle, Christine Niel, la fille d'un paisible docteur de campagne, d'une mère rigide et impeccable, qui errait maintenant, chassée par l'inquiétude d'un hôtel à un autre avec un étranger? Non, ce n'était pas elle. Ce n'était plus la petite fille de jadis, timorée, tourmentée, dépendante, que l'on grondait à tout propos. C'était un être nouveau, qui frémissait et tremblait à des sensations inconnues et combien différentes de ce qu'elle avait rêvé. Elle s'en était allée, enfant passionnée et très pure, vers ce qu'elle croyait être une tendresse meilleure, et on lui révélait à la place tout un monde ignoré auquel elle restait presque hostile. « Je vous aime, » lui avait dit Lionel. Docilement, elle accepta l'explication. Mais un effroi mêlé de honte la paralysait encore avec lui. Elle ne se sentait redevenir elle-même que seule ou en présence d'un tiers. C'est ainsi qu'à Genève, elle n'avait pas permis qu'on les servît à part, s'obstinant à vouloir les repas dans la salle à manger commune, où les regards la mettaient au supplice, et à se soustraire au tête-à-tête dans leur chambre par des promenades continuelles à travers la ville, une sorte de mouvement perpétuel qui l'empêchait aussi de penser. Un dur chaos de la voiture fit vaciller la tête pesante de Lionel qui retomba sur l'épaule de Christine. Il ne se réveilla point et elle le regarda un peu troublé à la lueur de la lanterne qui éclairait d'un faible rayon son visage. Il était très beau et très pâle. Ses cheveux roux dans l'ombre semblaient noirs. « Comme il doit être accablé pour dormir ainsi, » pensa la jeune femme. Elle se rappela qu'elle l'avait trouvé étrange pendant toute la journée du voyage. Alourdi, l'esprit absent, les yeux vagues. Serait-il malade? Une contraction lui serra la gorge, car elle devait l'aimer infiniment puisqu'ils étaient unis, croyait-elle, par un lien sacré, plus fort que tout, que rien, hors la mort, ne pourrait dénouer. Quel pouvoir mystérieux, insondable, que celui qui faisait ainsi une seule âme, un seul corps, de deux êtres encore presque inconnus l'un à l'autre, qui se cherchaient, s'étudiaient, s'observaient, avec une crainte sourde de découvrir quelque chose qui déplaise. Déjà, la maison paternelle, avec ce qu'elle y laissait de son cœur et de ses souvenirs, reculait dans un passé fermé, sur lequel tout retour lui était désormais impossible. Cependant, ce soir-là, elle songea avec amertume à l'indifférence de ses parents. Tandis que Lionel, non sans quelque inquiétude, parcourait, dès le lendemain de leur fuite, les journaux du pays et se prémunissait d'avance contre les dangers d'une poursuite improbable, Christine secouait tristement la tête. « Vous ne les connaissez pas. Ils ne feront rien pour me retrouver. Je suis morte pour eux. » C'était comme si un don de seconde vue lui eût révélé le deuil glacial qui pesait, en effet, sur la maison de Bellaigue, à jamais désolée par sa faute, le silence fait autour de son nom, sa chambre fermée, tout souvenir d'elle effacé du foyer familial. Mais sans qu'elle pût deviner toutefois ce qui se cachait de douleur sous ce froid stoïcisme. D'instinct, elle se tournait vers l'avenir. « Pensons plutôt à votre mère, » disait-elle à M. de Reuil. « M'aimera-t-elle ? » Elle regrettait encore de devoir retarder jusqu'à l'automne le moment de la connaître. Lionel, lui ayant expliqué que sa mère accompagnait son grand-père au bain de mer, et qu'il valait mieux attendre leur retour à la maison pour s'y présenter. Des lumières falotes, dans la densité du brouillard, annonçaient l'approche d'un village. La voiture monta vers ce qui devait être un large et haut bâtiment, à en juger par les rangées de petits points brillants qui marquaient les fenêtres. Lionel dormait toujours. Christine le releva légèrement. « Nous arrivons. » Il ne bougea point. Il fallut l'arrêt complet du véhicule devant le perron, le bruit des voix, la lumière plus vive de la lampe électrique pour l'arracher à sa torpeur. Il finit par descendre d'un pied lourd, ahuri, en se frottant les yeux. Et il oublia Christine, à qui le cocher vint en aide. Le maître d'hôtel, tête nue, les salua sur le seuil. Ils traversèrent le vestibule et la salle à manger, où l'hôtesse, une accorte suissesse, leur souhaita la bienvenue et s'informa de leur voyage. Elle offrit une tasse de thé à Christine, qui accepta, plutôt heureuse d'un délai, pendant que Lionel faisait monter les malles. Elle l'entendit commander dans leur chambre de l'eau de seltz et du brandy, puis elle revint la chercher. Le maître d'hôtel, souriant et s'excusant, leur présenta le livre des étrangers. « C'est juste, » fit Lionel. Il écrivit de sa large écriture incertaine « Monsieur et Madame de Reuil, Irlande. » Christine, qui avait regardé par-dessus son épaule, lui adressa un sourire reconnaissant. « Il vaut mieux, » lui dit-il en montant, que nous passions pour marier. C'est une maison fort convenable, où l'on ne nous garderait pas sans cela. » La courte joie de Christine s'éteignit. Une rougeur humiliée couvrit son front et ses joues. Il lui sembla que l'hôtesse, d'en bas, l'avait suivie d'un regard soupçonneux. L'irrégularité de sa position éclatait-elle à tous les yeux. Cela se voyait donc qu'elle n'était pas mariée. Elle rougissait chaque fois qu'on l'appelait madame, et encore plus quand on paraissait hésiter sur la manière de lui parler. Lionel, d'une main maladroite, élargit encore la blessure qu'il venait de faire. « Écoute, Christine, lui dit-il, lorsque le domestique eut apporté sa boisson favorite. Il faut nous tracer. Nous resterons ici cet été, on nous parlera et on voudra savoir qui nous sommes. Eh bien, nous sommes en voyage de noces. Et si tu le veux, ajouta-t-il en hésitant, nous allons rejoindre ma famille en Irlande. Voilà notre état civil. Il se mit à rire, d'un rire nerveux qui sonna faux. Je préférerais ne causer avec personne, Lionel, murmura-t-elle. Cela me gêne et m'humilie. Elle ajouta ces derniers mots très bas. Il haussa les épaules. Nous ne pouvons pas vivre comme des sauvages. Cela nous ferait remarquer. Personne ne se doutera de rien si tu t'observes. D'ailleurs, c'est toi qui as voulu venir à l'hôtel. Elle baissa la tête car que répliquer à cet argument? Il avait raison, mille fois raison. Elle préférait encore l'hôtel. Mais alors, elle ne savait ce qu'elle désirait et l'angoisse qui l'oppressait dès qu'il se trouvait seul la reprit, plus poignante que jamais. Elle eût voulu se cacher pour pleurer, fuir, bien loin. Mais où? Elle n'avait point de refuge, plus de famille. Elle n'avait plus que lui. Et ensemble, ils étaient perdus dans le vaste monde, isolés au milieu des foules, différents de tous ceux dont ils approchaient, des ménages unis dont le bonheur rayonne, des êtres qui s'aiment sans mensonge et sont fiers de s'aimer. Pour cacher son trouble, elle se leva et alla fureter dans sa malle. Lionel, qui se versait une seconde rasade, tout en l'observant d'un œil distrait, poursuivait avec effort un problème intérieur. Christine se révélait tout autre qu'il en avait auguré. À en juger par l'empressement avec lequel elle s'était donnée, il ne se serait certes pas attendu à la trouver si froide, si indifférente, ni si candide. Mais sa fraîche jeunesse, sa grâce, la lui rendaient encore très désirable. Et, ayant vidé son verre, il s'avança vers elle d'un pas vacillant. Christine. Elle se retourna, eut un instinctif mouvement d'effroi à le sentir si près d'elle, avec sa face pâle, ses yeux allumés, ses mains qui tremblaient en la touchant. Qu'avez-vous donc, Lionel? Êtes-vous malade? Elle reprit aussitôt, craignant de l'avoir fâché, car elle ne pouvait s'accoutumer si vite au tutoiement qu'il exigeait. « Es-tu souffrant ? » demanda-t-elle, avec une tendresse inquiète, où se noyaient pour le moment toutes ses pudeurs. « Toute la journée tu m'as troublée, et hier aussi. » Il sourit embarrassé. « C'est la chaleur, » dit-il. « Un verre de cela, » et il indiqua le carafon sur le plateau, fera disparaître mon malaise. Le siphon ne contenait plus qu'un fond d'eau de seltz. Tranquillement, il remplit avec le brandy. Christine le regardait étonnée. Ne serait-ce pas plutôt toutes ces boissons glacées qui vous font mal? Reprit-elle après un silence. Il me semble que vous en abusez. C'est dangereux par les chaleurs. Au contraire, assura-t-il. Cela me remonte. Le lendemain, ils déjeunèrent à la table d'hôte. On les dévisagea avec cette curiosité impertinente qui, dans les hôtels-pensions, détaille du haut en bas les nouveaux venus et décide, à première vue, à quelle coterie on les croit dignes d'appartenir. Ils se tirèrent à leur honneur de l'examen. La hauteur britannique de Lionel, son aristocratique beauté, l'air de tranquille dédain avec lequel il toisa ses voisins, les jugeant de prime abord inférieurs, lui valurent le respect de chacun. Tandis que Christine charma par sa grâce timide. On les classa sous la rubrique « voyage de noces ». Le jour suivant, on leur parla à table. Le troisième soir, on invita la jeune femme à prendre un rôle dans des tableaux vivants. Elle refusa, mais la glace était rompue. Et alors commença, pour elle, une vie bien pénible. Sa grande jeunesse et sa douceur lui gagnaient facilement les cœurs. Elle connut pour la première fois le bonheur de se sentir sympathique. Mais la gêne de sa situation fausse et le mensonge qu'elle s'imposait étouffaient toutes ses joies dans leurs fleurs. Que pensaient d'elle ces hommes qui la trouvaient jolie, ces mères qui l'enveloppaient d'une protection caressante, ces jeunes filles qui eussent voulu l'attirer dans leur jeu? Soupçonnait-il la vérité? Une conversation que l'on interrompait à son approche, un regard qui lui semblait étrange, une question toute naturelle peut-être, mais qu'elle interprétait dans un sens équivoque, un salut plus froid certains jours que la veille, la faisait tour à tour rougir et pâlir, couper court à une causerie amicale, ou se troubler, frissonner de tous ses membres, et s'en aller comme on s'enfuit. Le sentiment de sa duplicité lui devint bientôt plus pénible que celui de sa faute même. Elle eut bientôt la conviction que personne ne conservait plus de doute sur la nature de ses relations avec M. de Reuil et qu'elle dissimulait en vain. En tout cas, son attitude embarrassée eut pour conséquence d'affermir les soupçons dont son imagination fit peut-être d'abord tous les frais. Un jour, Lionel la vit rentrer du jardin les larmes aux yeux, parce qu'une voix sortant d'une charmille avait prononcé ces paroles. « Je ne crois pas qu'ils soient mariés. » Et brusquement, à la vue de Christine, les interlocutrices s'étaient tues, l'air gêné. Lionel, au lieu de la consoler, la gronda. Si l'on a des doutes sur nous, dit-il, c'est votre faute. Quoi que vous fassiez, vous avez toujours l'air de vous cacher. Partout où l'on nous voit, vous semblez demander pardon d'être là. Mais que puis-je faire, s'écria-t-elle. Il faut toujours mentir, cela me fait mal. Je ne puis pas causer 5 minutes avec qui que ce soit sans que survienne un mot qui me mette mal à l'aise. Quel sot scrupule, ma pauvre amie! « Puisque je vous fais passer pour ma femme, qui oserait croire que vous ne l'êtes pas ?»« Et puis, que vous importe l'opinion de ces gens ?»« Ce sont d'honnêtes gens, Lionel. » Elle avait souvent remarqué qu'il ne supportait aucune contradiction. « Vous croyez, dit-il, avec un impertinent sourire ?»« Vous êtes naïve. Allez, nous ne sommes peut-être pas les seuls ici dans notre cas. » « J'espère que vous vous trompez pour les autres. » Tout de suite, Lionel s'irrita. « Vous vous plaignez, dit-il, le front plissé. » Elle détourna la tête en réprimant un soupir, et il ajouta brutalement. « Et de quoi ? Nous sommes ici parce que tu l'as voulu. » Elle arrêta ses larmes sans plus répondre et fixa sur lui pendant un instant le regard déjà méprisant de ses clairs yeux gris. Car elle souffrait par lui. Si elle ne reconnaissait pas encore sa défaite, luttant avec passion contre la certitude de s'être trompée, si elle évitait de mesurer les suites tragiques de son erreur, elle s'avouait du moins que le caractère de Lionel lui échappait et que dans l'intimité, il était un tout autre homme qu'elle l'avait jugé. Chaque jour lui apportait de nouvelles déceptions. Elle ne fut pas longtemps à s'apercevoir que, sous son extérieur séduisant, il cachait un fond d'incorrigible grossièreté. Arrogant, brouillon, paresseux, dépendant et despotique à la fois, se plaignant ou s'emportant tour à tour, il n'avait pas même, pour couvrir ses défauts, le vernis d'une culture apparente. Il était déplorablement mal élevé. Il parlait le français et l'anglais à peu près comme un domestique, jurait à tout propos, se révélait d'une ignorance stupéfiante et ne s'intéressait à rien, sauf peut-être à ses vêtements, dont il changeait jusqu'à 6 fois par jour. Sa manière de tuer les journées M. de Reuil se levait généralement pour le déjeuner de midi, fumait quelques cigares, et après une partie de billard où il était assez habile, il remontait chez lui, se faisait apporter un grog, puis dormait jusqu'à l'heure du dîner. Il se couchait alors assez tard et obligeait Christine à des veilles prolongées. Elle essaya souvent de secouer son apathie. « Si vous saviez comme il fait bon dehors le matin, ce n'est qu'une habitude à prendre. Voulez-vous venir vous promener avec moi ?» Il fallait l'entendre grogner et se plaindre qu'elle ne le laissât jamais se reposer tranquille. Ses excentricités firent bientôt l'objet des plaisanteries de tout l'hôtel. De malicieuses jeunes filles ayant remarqué avec quelle complaisance il s'admirait, le surnommèrent le Bonartis. On ne le désigna bientôt plus que sous ce nom. Christine en rougissait pour lui, ainsi que des sourires que provoquaient ses nombreuses fautes de langage ou les énormes bêtises qu'il disait. « Comment se fait-il que votre père, étant français, ait épousé une Irlandaise ?» lui demanda-t-elle un jour. Il sourit un peu méchamment. « Les Français aiment les femmes riches. » Mais ma mère n'aimait pas les Français, et aussitôt après son veuvage, elle m'emmena dans sa famille. J'avais 4 ans. De sorte que ce sont votre mère et votre grand-père qui vous ont élevé. Vous voulez dire que j'ai vécu auprès d'eux. Ni l'un ni l'autre ne s'occupait de moi. Cela regardait le précepteur. Ah, et quelle sorte d'homme était votre précepteur? Lequel? J'en ai bien eu 12. Mon grand-père n'épargnait rien pour m'entourer de savants. Mais si vous croyez que je m'inquiétais d'eux ou eux de moi, c'étaient de beaux messieurs qui chassaient, fumaient, buvaient le vin de grand-papa et vaquaient à leurs propres affaires. Enfin, je ne les voyais jamais. J'avais plus d'agrément avec les domestiques. Ainsi, c'est la cuisinière qui m'a appris le français. Et le cocher l'anglais, faillit dire Christine. Elle se retint et reprit avec une insistance timide. Aussi ne le savez-vous pas très bien. Si vous voulez, je vous corrigerai quand vous ferez des fautes. À quoi bon? Je ne songe pas à gagner ma vie en donnant des leçons. Un gentleman n'a pas besoin d'en savoir si long. Une chose dont je suis certain, c'est que les amoureux se tutoient en français. Pourquoi ne veux-tu pas, chérie? Si elle tentait de lire à haute voix pendant qu'il se couchait l'après-midi, sa respiration égale et douce au bout de quelques minutes l'avertissait qu'il dormait. De découragement, elle laissait tomber le livre. Il s'installait quelquefois en plein air dans un champ sur le bord de la route. Lionel, étendu sur le dos, les bras croisés derrière sa tête, se chauffait comme un grand lézard au soleil. Son corps, dans l'alanguissement de sa pose, prenait une grâce indescriptible. La jeune femme, les yeux gonflés, profitait de son sommeil pour l'observer avec minutie. Elle examinait sa peau blanche, aux grains fermes et serrés. Elle y cherchait en vain, marquant le front ou la tempe, une ride. Un pli, si ténu fut-il, indicateur de la pensée. Il avait la peau lisse comme la peau d'un enfant. Son front, parfait de forme, conservait le poli d'un marbre vierge sous sa couronne de cheveux d'ambre. Elle regardait aussi ses mains pâles de femme où courait un réseau de veines bleuâtres. Et plus elle se convainquait de son irréprochable beauté, plus elle s'indignait contre elle-même. C'était donc cela qui l'avait séduite en lui. Elle ne connaissait de lui que cet extérieur, et cela lui avait suffi pour se donner. Comment pressentir qu'un front aussi noble pût être l'enveloppe d'un cerveau aussi vide, une forme aussi belle habiller une âme aussi vulgaire? Telle qu'elle le voyait cependant, couché dans l'herbe à ses pieds, Il était son amant, son mari futur, le compagnon de toute sa vie, le père peut-être de ses enfants, son appui, son guide moral, son maître, qu'elle avait choisi librement, le beau Narcisse. Des gens passaient sur cette route la plus fréquentée, car l'indolence de Lionel ne le laissait guère s'éloigner des hôtels, et des regards toisaient le couple, étonné ou narquois. On saluait Christine qui répondait gravement. Si l'on chuchotait, se retournait, elle pleurait, ses doigts comprimant ses paupières, toujours lourdes de larmes secrètes. Lionel ne voyait rien, n'entendait rien. Un jour, des enfants qui jouaient le frôlèrent en courant. L'un d'eux trébucha sur les pieds du dormeur et s'excusa, rieur et rougissant, sans qu'il bougeât dans son épais sommeil. « Mais qu'est-il donc ? » se demandait-elle parfois. « N'est-il que bête ou mal élevé ? Est-il malade ?» Un mystère qu'elle avait presque l'effroi d'éclaircir enveloppait son amant à ses yeux. Maintenant, il lui donnait des ordres et se faisait servir par elle comme par une personne à gage, la rudoyait et se montrait stupidement jaloux. Elle supportait tout cela. Mais ce qu'elle comprenait de moins en moins et ce qui l'inquiétait davantage, c'était ses yeux brillants le soir, ses gestes tremblants, sa nervosité de fièvre. Si vraiment il souffrait, de quelle nature était sa maladie? Dans l'hôtel où la tyrannie de Lionel commençait aussi à provoquer l'attention, on ne se gênait pas pour dire que la jolie madame de Reuil, mariée ou non, semblait fort malheureuse. Si quelques personnes suspectant son honorabilité s'éloignaient d'elle par prudence, d'autres, en revanche, cherchèrent à se rapprocher. On la devinait triste, tourmentée, avec un douloureux secret qui endeuillait sa fraîche jeunesse, et les meilleurs la plaignaient. C'est ainsi qu'une certaine madame Ardenne, parisienne grave et distinguée, au visage de bonté sous des cheveux gris, se prit de pitié pour elle et chercha à l'attirer dans son cercle. Elle eut souvent à la défendre contre les médisants. La jeune femme espéra une sympathique amie, et la joie craintive avec laquelle elle répondit à ses avances toucha madame Ardenne, qui s'ingénia délicatement à lui donner des preuves de son amitié. Dans ce but, dans celui aussi de la mieux connaître, elle l'invita un jour à faire une course au Chamecerf avec elle et ses deux enfants. Christine, malgré la réserve qu'elle s'imposait, n'eut pas le courage de refuser. Elle avait soif de grand air et d'exercice. Depuis tantôt 3 semaines, M. de Reuil ne lui avait pas accordé la plus courte promenade. Marcher le fatiguait. Par la chaleur, il avait des nausées. Chaque matin, le cœur serré, la jeune femme assistait à des départs joyeux d'excursionnistes, sans espérer jamais se joindre à eux. Puis, le soir, elle les voyait rentrer, las et triomphants, avec des bottes de fleurs alpestres liées à l'extrémité de leurs longs bâtons. Et son cœur se serrait de nouveau. Madame Ardenne ne se doutait pas que sa proposition dût exciter un tel plaisir. Partie à 6 heures du matin, pendant le sommeil de Lionel, Christine laissait déborder sa joie à mesure qu'ils avançaient dans la haute montagne, redevenait vive, rieuse, communicative, semant ses ennuis à tous les lacets du chemin. Elle marchait si allègrement que Lucie et Henri Ardenne, âgés l'une de 18, l'autre de 15 ans, avaient peine à suivre son pas. Un rose léger s'étendait sur ses joues, ses yeux brillaient, dégagé de ce cerne de mélancolie dont s'était alarmé le cœur maternel de madame Ardenne. Cependant, Le contraste entre cette gaieté brusquement épanouie et l'abattement de la veille présentait quelque chose d'anormal, qui ne pouvait manquer de frapper un esprit perspicace. Madame Ardenne se demandait maintenant si elle n'avait pas été trop prompte à admettre dans l'intimité de sa fille cette troublante étrangère. Ses réflexions lui gâtèrent quelque peu le début de la promenade. Mais Christine était si candide, si gentiment reconnaissante, qu'elle oublia ses préventions. Ils lynchèrent sur l'herbe drue, étoilée de gentiane et de grêles petites fleurs blanches, au sommet du chamecère, avec le précipice béant sous leurs pieds. Un brouillard bleuissait la vallée, tandis que le ciel resplendissait au-dessus de leur tête d'un azur admirable. Le repas fut gai, plein de rires. Un vent vif éparpillait sans cesse les cheveux des jeunes filles. Lucie finit par retirer ses épingles et laisser tomber sa natte. « Faites comme moi, dit-elle à Christine, on n'y tient pas. » Celle-ci l'imita. Ce furent aussitôt des exclamations. « Votre mari doit être fier de vos cheveux, dit Madame Ardenne. » Christine rougit et ne répondit pas. Une ombre passa sur sa gaieté. On convint, pour terminer l'excursion, d'une visite au lac. Elle se recoiffa avant de partir. Entre ces hauts sommets des Alpes et au pied du chamecère s'ouvre un étroit vallon au fond duquel sommeillent trois lacs. Le plus grand reflète le ciel d'un bleu de saphir sombre. Des vols d'innombrables libellules agitent sur sa surface une palpitation d'ailes argentées. Le second doit aux herbes de son lit et aux roseaux qui s'érigent sur ses bords sa couleur d'émeraude brouillée. Le troisième, aux rives semées de grosses pierres, est noir, comme les roches qui y versent leur ombre. Une seule maison, rustique auberge, se dresse au bord du lac bleu, où un bateau à l'ancre attend les promeneurs. Une atmosphère de lourde désolation pèse sur cette région. Le contraste est peut-être trop brusque entre la vue large et libre que l'on a du chamecère et ce val trop profond, creusé en entonnoir entre les parois de roc où se brisent les rayons du soleil. Du moins, telle fut l'impression qui s'en dégagea pour Christine. Tandis que les jeunes Ardennes, qui n'avaient aucune raison de mélancolie, faisaient détacher le bateau et traversaient le lac au milieu d'un vol épeuré de libellules, leur mère et Christine, un peu lasses, s'assirent pour les attendre dans une galerie de bois découpé. Pour répondre à un salut que lui envoya de loin sa fille, Madame Ardenne agita son ombrelle en souriant. Elle s'amuse, dit-elle en se tournant vers Christine. C'est tout naturel à son âge, 18 ans. Mais moi aussi j'ai 18 ans, 18 ans et 5 mois, s'écria Christine ingénument. Elle se tut aussitôt et rougit. Madame Ardenne ne put se défendre de l'interroger. Je m'en doutais, vous avez l'air si jeune. Et cependant, quelle différence entre vous et Lucie! Comment votre mère a-t-elle eu le courage de vous laisser partir? Christine, la tête baissée, regardait la coque éclatante du bateau s'épanouir à l'autre extrémité du lac. « Vous n'avez peut-être plus de mère ?» demanda doucement Madame Ardenne. Pâle, la jeune femme releva la tête et sa compagne vit des larmes dans ses yeux. « Aussi, répondit-elle d'un ton plaintif, j'ai aussi un père et des sœurs, mais... » Un court sanglot coupa sa voix. Elle a dû se marier contre leur gré. Si elle est mariée, pauvre petite, pensa Madame Ardenne. Par délicatesse et par crainte d'en apprendre plus long qu'il ne lui aurait été opportun de savoir, Elle s'abstint de la questionner davantage. Quoiqu'elle réprouvât comme mère la rébellion supposée de Christine, elle ne pouvait se défendre, étant bonne, d'un vif sentiment de compassion. Mais elle n'en continua pas moins à garder un silence prudent à côté de la jeune femme, qui, les paupières baissées et le sein palpitant, n'attendait qu'un encouragement amical à laisser jaillir son secret. Madame Ardenne n'eut pas le courage de le lui donner. Des confidences auraient pu l'embarrasser en lui créant des obligations. Elle eut peur de se laisser entraîner trop avant, malgré elle, dans l'œuvre de pitié et que le monde dût l'en blâmer. Déçue et résignée, Christine s'accoudait sur la galerie ouverte du pavillon. Le lac miroitait sous ses yeux et la brise lui apportait l'écho du rire sonore des jeunes Ardennes que la barque ramenait. Henri au gouvernail, fendant l'azur de sa proue vermillonnée. Elle soupira. L'avenir surtout l'effrayait. Ce long avenir que lui promettait sa jeunesse, sa santé, et pour lequel elle se sentait sans force. Puis, le bateau ayant abordé, le frère et la sœur sautèrent à terre et coururent rejoindre leur mère. Un incident vint encore aggraver les soupçons de Madame Ardenne. En partant, Lucie et Henri voulurent s'inscrire sur le livre des visiteurs qu'ils passèrent ensuite à Christine. Elle ne mit qu'un seul nom, Christine. « Votre nom de famille aussi, madame, » dit le jeune garçon. « Non, » répondit-elle en secouant la tête. « Christine tout court. J'aime mieux ainsi. » Au retour, Madame Ardenne, sous un prétexte, retint sa fille auprès d'elle, tandis que Christine et Henri rivalisaient de vitesse le long des talus gazonnés. Quand ils rentrèrent à Villars, une belle lumière dorée emplissait le fond du ciel. Et les silhouettes des montagnes pâlissaient, ennuagées de gaz rousse. Christine remercia Madame Ardenne avec effusion. Cette dernière la suivit d'un énigmatique regard, comme, légère et gracieuse, elle montait en courant l'escalier. « Vois donc, Lionel, » dit-elle en entrant dans la chambre, « je t'apporte des fleurs. » C'étaient des lys martagon et de gros chardons argentés, entremêlés de gentiane, de hautes marguerites jaunes, d'herbes fauves, fuselées et tremblantes. Monsieur de Reuil, allongé sur le canapé, selon son habitude, dormait les yeux ouverts. « Ah !» dit-il d'une langue pâteuse. « Ah !» Il eut un ricanement bête, puis répéta « Ah !» comme s'il cherchait à se souvenir, tout en essayant de se mettre debout. « Où donc as-tu été ? » bégaya-t-il. Ses yeux brillaient, stupides et fous. Christine recula instinctivement en répondant « Mais tu le sais bien, au Chamosserre avec les Ardennes, je te l'ai dit hier. » Lui, sans l'écouter, avançait sur elle. « Tu profites de mon sommeil pour aller courir la montagne avec le fils Ardenne, tu es... » Il se rapprochait toujours, s'accrochant à la table et l'enveloppant déjà de son haleine épaisse. Elle attendait, livide, sans comprendre. Puis soudain, elle jeta un grand cri, cri d'angoisse, de douleur et de honte. « Ah, Lionel, tu es ivre, ivre, ivre !» Elle reculait, les mains étendues, le visage décomposé. Il s'élança pour la saisir. Alors elle le poussa si violemment qu'il s'abattit, lourd de chair inerte, sur le plancher.